portée du ciel, une voix, une facilité face au but existentiel. Bonjour, moi c'est Calvin Klein. Enchanté, moi.
Bonjour tout le monde, Spectaculaire commence aujourd'hui, mercredi 27 janvier 2016, émission numéro 88, un chiffre particulier mais on n'en parlera pas pendant l'émission. Christophe Rollet au micro, Gérald est présent, il y a même un invité aujourd'hui, une invitée, une poétesse, oui je crois qu'on peut dire comme ça, Béatrice Machet, qui va nous parler d'elle pendant cette émission bien entendu, et aussi notamment d'un poète américain, John Trudell. Poète décédé il y a à peine plus d'un mois, on est quoi, donc le 27 janvier, c'était le 8 décembre 2015, voilà, on va évoquer tout ça, et puis pour commencer justement avec un peu de musique en rapport avec la poésie, pas les natives américaines, mais presque, eh bien écoutons du Bernard Noël, je crois que c'est ce que Gérald a programmé, et puis voilà, ça va continuer, vous nous écoutez, vous avez tout à fait raison, sur le 102.2 de la bande FM à Lyon, ou bien sur internet, c'est également un excellent choix, radiocanu.org.
Bernard Noël.
Au commencement, l'œil visita la moelle et je naquis. Un sexe émergea à l'opposé de l'œil pour regarder le temps. Et lentement, la moelle fila une pelote de nerfs autour de laquelle les airs vinrent s'égoutter. Ce fut le ventre. L'eau eut alors soif de se saisir et elle condensa la peau. Le mou engendra son contraire et l'os parut. Il y eut un dedans et il y eut un dehors, mais le dedans contenait son propre dehors, qui disait « moi » pendant qu'il disait « je ». L'œil les mit au noir et se tourna vers le dehors, dehors. J'eus un visage, un volume, un corps. Je fus un plein qui allait toujours de l'avant. Mais voici que mon œil s'est inverti. Maintenant, je vois derrière. Maintenant, je suis creux. Et mon corps est à recommencer.
Est-ce que la fin, c'était un hommage à ces Native Americans?
Non, non plus.
Non, pas du tout.
En fait, ça a été choisi d'une anthologie, Les Voix des Poètes, toujours les mêmes anthologies, des poèmes dits par eux-mêmes. Et c'était un choix concerté avec Béatrice Machet, poète ici présente, et entre autres, qui l'a mis dans sa bibliothèque d'ailleurs de ses écrivains préférés.
Absolument, voilà. Oui.
Donc bonjour Béatrice, bonjour Christophe,
bonjour
auditeur et auditrice. Voilà.
Béatrice, c'est à vous la parole pour cette première question à chaque fois en début d'émission. Indiquez-nous donc qui vous êtes, ce que vous faites, et puis après on verra plus précisément ce que vous ferez à Lyon, je crois, autour du 14 février pour la Saint-Valentin. Enfin bref, on en parlera ensuite. Dans un premier temps, pourriez-vous retracer un peu ce qui vous a mené du Var, je crois, jusqu'à Lyon, en passant, j'ai cru comprendre, par Macao, par Hong Kong, par également
Nashville.
L'Amérique du Nord, voilà, c'est ça, Nashville, par le Maine, enfin du moins ça fait tout un tas de belles pérégrinations, j'en bredouille. Je vous laisse la parole comme ça, je ne bredouillerai plus.
Bon alors, qui je suis? Ça c'est un abîme, c'est pas une question. Mais en même temps, puisque on a commencé avec des rimes en ette, on va dire que je suis une personne multifacette, qui porte plusieurs casquettes. Et donc s'il y avait à définir un être, ce serait certainement celui de poète. Alors chacun met dessous, dessus et dedans ce qu'il veut bien entendre par poète ou poésie. Oui, alors donc effectivement, ce lien au Native American, c'est quelque chose qui me tient à cœur et que je poursuis depuis l'âge de 16 ans, donc ça commence à faire très longtemps. C'est d'abord une prise de conscience, une révolte, un acte politique, du militantisme. Et puis ensuite, j'ai commencé à publier mes premiers textes vers l'âge de 24 ans. Et j'ai intégré les réseaux, éditeurs, etc.
C'était déjà de la poésie ? Vous avez commencé tout de suite comme ça ? Ou de la critique, ou de la traduction ou
Alors, la poésie, 13-14 ans. J'ai commencé à faire des plagiats, des petits poèmes pour amuser mes camarades en classe, pour se foutre de la gueule de mes chers professeurs.
Oh, ça n'est pas beau, ça n'est pas charitable du tout.
Non, mais seulement ceux qui ne servaient à rien.
Ah, bon.
Et puis ensuite, j'ai publié 2-3 petites nouvelles de science-fiction. Parce qu'à cet âge-là, 20 et quelques années, on est encore un peu tendre. On est déterminé à écrire, mais on ne sait pas exactement encore de quoi l'avenir sera fait. Et puis, il faut dire aussi que mes premières amours, ça a été la danse. Danse classique, danse contemporaine. Donc, j'ai touché à beaucoup de choses. J'ai pris des cours de dessin, de peinture. Enfin, j'ai bricolé des tas de choses parce que je savais que ma voie serait artistique. Mais après, choisir quelle discipline, c'est un crève-cœur. Donc, voilà. Donc, je me suis un petit peu formée à tout et touchée à tout. Mais quand même, avec l'intime conviction, au bout du compte, et donc dès 24 ans, une forte détermination, ce serait l'écriture. Donc j'ai un petit peu négligé la danse pour vraiment me donner à la poésie. Et puis à l'époque, j'étais infiltrée et je côtoyais les milieux de la science-fiction dite politique. C'était la gueule ouverte, c'était des magazines comme ça, c'était aussi des militants, c'était...
Géographiquement, à quel endroit ? Paris, c'est ça ?
Paris, mais pas que. À Grenoble, il y avait Jean-Pierre Andrevon, qui était un militant assez actif.
C'est les années 70, ça.
C'est les années 80 quand même, oui. 70, j'étais encore un peu
quand même, Gérard,
avec les soquettes
et les
souliers vernis.
De toute façon, auditeurs, si vous cherchez Béatrice Machet sur internet, sa date de naissance apparaît quelque part, donc oui. Ce ne sera pas un mystère. Moi, une question quand même que je voulais vous poser, c'est donc écriture, vous dites ça a été l'écriture, mais alors quelle écriture ? Manifestement pas narrative, pas non plus dramatique, ou alors peut-être justement dramatique, mais dans l'autre sens, donc pas de théâtre, mais peut-être une tension, et écriture poétique, en plus, quelle forme également ? Une forme très classique, 18e, belle prosodie, rime, hémistiche, syllabes, tout ça, pied même, on pourrait dire, ou non, plutôt prose poétique ou c'est...
Je vais vous en lire un petit morceau, comme ça, je crois que ça vous donne tout de suite le ton.
Très bien. Mais ensuite, il faudra quand même qu'on reprenne le fil, nous sommes dans les années 80, avec Grenoble-Paris, vous êtes dans le milieu
de la science-fiction. Bande dessinée.
C'est intéressant aussi.
Ouais. Je vous raconterai parce que j'ai visité les ateliers de Enki Bilal, par exemple. J'ai côtoyé Fmur.
Et pour la danse, j'ai vu apparaître le nom de Angelin Preliokai.
Oui, j'ai travaillé avec un de ses danseurs.
C'est très bien.
À Aix, au Pavillon Noir, absolument.
Une invitée de qualité. Donc, interlude poétique, je vous en prie, Béatrice.
Alors, je vais vous lire un extrait de Balkanique. C'est drôle, comme aujourd'hui dans le corps, c'est bal, canique, un rythme aboyé. Des sursauts, des froids dans le dos, des chauds, les retrouvailles et les séparations, les spéculations, les interprétations s'engagent, les rencontres, les racontes, les pourquoi, les comment, les... C'est tellement toi. Ça remue les méninges, ça fait le ménage sous le crâne et derrière les yeux. Fallait oser, gonfler ou culotter sans mériter calotte. Terrain défoncé par de gros sabots, mine personnelle déconfite ou radieuse, techno mitraillé dans les oreilles, désespoir joyeux sur les lèvres, politesse et non petitesse. Printemps désemparé, crise en crue, emporte tout à volo. et les paroles assassines, et les ragots et les rumeurs, et les bombes à retardement, les souvenirs comme les cadavres, les blessés qu'on ne veut pas abandonner dans la ligne de mire des snipers. C'est bas le canique, ces crocs qui ne lâchent pas ce trop. C'est drôle, comme aujourd'hui, à paupières de forêt, à la lisière des cils, la fosse commune fait bosse. Visage au ras de terre, haleine le sang caille. On bute sans hésiter, les os de la nuque font saillie. Et valse tétourne les heures chavirées, les hauts, les cœurs, les courages nauséeux. Les énergies intactes, c'est aujourd'hui sans débuter le bal de la belle éveillée sur le front populaire des rêves cendrillonnés. Voilà un petit,
bravo.
Un petit exemplaire.
Oui, ça, c'est cette lecture musicalisée.
Exactement, c'est génial, c'est important la lecture. Hein,
c'est la danse de la jeune fille et la mort un peu à la fin. C'est la valse de...
Voilà, enfin, c'est un premier mouvement, on va dire. Voilà, oui.
C'est écrit en 94, en pleine guerre ou pas?
Ça a été écrit dans les années 2000,
après.
Mais ça fait référence à toutes les guerres en fait.
Oui, y compris balkaniques.
Et toutes les saloperies, oui bien sûr, oui. Au départ oui.
Bon, ben, donc c'est très net là, j'ai une réponse tout à fait.
Bah là, après Bernard Noël qui disait lui-même son propre texte, on a l'esprit de cette poésie vécue, vivante, qui se transmet par la parole, où la parole est très importante, on va dire.
La mise en voix, voilà, c'est une mise en corps, c'est une, donc une là je
incarnation,
je fais le, voilà le lien avec Bernard Noël, mais moi j'ai tout appris de la danse en fait, hein, donc le souffle, le mouvement, la rythmique, pousser le mouvement jusqu'à l'extrême possibilité du membre, du geste, etc. Donc voilà. C'est quelque chose que ma voix fait, je pense, tout naturellement, parce que je suis passée par les studios de danse, je pense que quand même c'est important. Ouais.
Si je peux me permettre, la langue aussi, sans faire un... Mais c'est trop tard, j'ai déjà fait un... Je vais faire un jeu de mots très vaseux. La langue est mâchée.
Oui, mais oui,
Béatrice.
Mais...
Alors, voilà. Mâchée ou mâchée, ouais. Béatrice Mâchée, M-A-C-H-E-T.
La moindre syllabe, la moindre tonalité, très
oui,
précise.
Oui, mais ça c'est... Donc, j'aime ça, triturer les sons. Ce que j'ai pas encore précisé, c'est que j'écris aussi en anglais.
On y viendra.
Ah, on l'a entendu.
Pas seulement.
Le terme de snipers, qui était quand même prononcé correctement à l'anglais.
Merci. Mais l'anglais, c'est une langue sonore et qui permet de jouer vraiment avec les sons. Hein. Donc, que je pense que je l'ai dans l'oreille, ça. Même quand j'écris en français aussi.
Oui, ça s'écoute, ouais.
Et puis c'est important parce que c'est quand même les racines, je pense, de la poésie. Hein. C'était chanter.
Oui.
C'est le chant, en fait. Hein. Et ou même si on va encore plus loin, c'est les cérémonies, les rituels.
Qu'on a perdu à jamais, devant les fresques
et alors,
variétales.
Donc, vos premiers vers au collège ou au lycée, ça ressemblait à ça? Non, c'était pas
non.
Encore. C'était pas tout à fait.
Non, c'était vraiment des pastiches pour se moquer de certains profs, comme je disais, quoi. On ne pouvait pas les respecter parce qu'ils ne servaient à rien. Quoi.
Mais il y avait quand même déjà un truc, comment dire, vous souhaitiez exprimer cela par le biais de mots et de phrases, de textes.
Oui,
et
je jouais déjà avec les mots. Je ne sais pas si les jeux étaient bons, mais en tout cas...
L'allitération, les homophonies, tout ça.
Donc, oui. Ça, oui.
Et alors, l'écriture de science-fiction, pour évoquer ce que vous disiez tout à l'heure, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est plutôt, là, pour le coup, de la création.
Non, mais malgré tout, je me souviens avoir écrit quelque chose au moment de l'occupation des chantiers navals à Gdansk. Et malgré tout, c'est plus fort que moi. C'est-à-dire que dans le climat même des luttes et de cet aspect politique des choses... Je mettais une espèce de brume ou de halo poétique autour de chaque chose et de chaque parole. Donc ça donnait une espèce de profondeur aussi, ou de volume irréel, au sein même de quelque chose qui était très actuel et conflictuel. Donc j'ai arrêté la science-fiction, je crois que j'avais cette veine-là, ce souffle-là. Et... Bon, et puis c'est anecdotique et accidentel un petit peu, parce que bon, à l'époque, mon compagnon était très très investi dans la science politique, donc science-fiction politique, pardon.
Mmh. Non, enfin voilà, vous avez tout de même bien frayé avec ce milieu, dans, donc nous disions dans les années 80-90.
Oui, oui, 80-90, oui.
Ouais, et oui. Alors donc c'est à cette époque les vous parliez à l'instant de Enki Bilal, enfin il y a quelques
années. Oui, alors donc en fait cette science-fiction politique était de toute façon les idées étaient aussi relayées par le par certains dessinateurs de BD, hein, dont Enki Bilal, qui lui donc là voilà on est en plein Balkan. Voilà, et Enki à l'époque il travaillait sur des films. Et donc dans son atelier, dans là où il bossait, il y avait des grandes tables et il y avait des écrans de télévision partout. Et il faisait des arrêts sur image, sur nous. Donc c'était assez particulier.
C'est film à lui, hein, parce qu'il a fait aussi les décors de d'Alain Resnais, ouais. La vie est un roman.
Voilà, mais c'était avant ça. Moi, j'ai rencontré avant.
Il en a donc, deux de films, je crois. C'est j'ai en tête Bunker, Palace Hotel, je crois, puis Tico Moon,
c'est
il
ça.
Me semble.
C'est ça, mais ouais. Moi, j'ai rencontré avant Enki à ce moment-là. Il était déjà très, très sollicité et très, très célèbre. Ouais.
Et à ses côtés, que puisez-vous, que trouvez-vous une inspiration ou des idées ou des, enfin, c'est...
Je dirais plutôt une posture.
Une posture.
Les idées, je ne sais pas s'il en avait. C'est pas lui faire. Je veux dire, je ne cherche pas à lui casser. Voilà, je ne veux pas lui casser du sucre sur le dos. Mais c'est quelqu'un plus de guts, le tripal, qu'un réel penseur. C'est pas un théoricien.
C'est avant tout un artiste, un créateur unique dans la bande dessinée.
Ah, y en avait un qui avait un discours plus philosophico-politique, mais pour Enki, enfin, en tout cas, je le ressentais pas comme ça.
C'est une figure un peu à Lyon dans ces années 90 avec l'affiche, puis enfin pas seulement l'affiche, bien entendu,
les costumes.
Le ballet, voilà, les costumes pour le ballet Roméo et Juliette, ouais. de Prokofiev.
Ouais, ouais.
Il y avait toute une esthétique futuriste ou
tout à fait.
Opéra, enfin ballet qui a été souvent repris. Donc enfin, il me semble il y a peut-être esthétiquement un peu à Lyon, du moins une sorte de bilalisme. Enfin, il y a quelque chose qui doit être un peu présent, un peu prégnant.
Ouais.
Oui. Mais ça a été repris il n'y a pas très longtemps. Ouais, quoi que non, ça fait 10 ans, je crois, il me semble, 2008.
Ils le reprennent régulièrement, ils l'ont repris par
régulièrement, oui.
De toute façon, il y avait une forme, et c'est ça qui faisait son charme aussi, il y avait une forme de décalage quand même entre sa culture et ce qu'il faisait en France. Et ça, c'était génial, hein, parce qu'il injectait ça dans notre francitude, on va dire. Ça pouvait être énigmatique, ça pouvait être mystérieux, c'était voilà le charme slave peut-être. Et il y a ce qu'on retrouve dans beaucoup de cultures de cette ère géographique-là, même en Grèce, je pense même si on va jusqu'en Turquie, cette espèce de vivre dans l'instant en intensité et en joie, avec de toute façon chevillé au cœur. Et avec la même intensité, une forme de désespoir absolu. Donc, et il portait ça aussi, quoi. Donc, c'est quelque chose d'assez... Oui, dans le paysage de la bande dessinée, il était unique pour ça, tout à fait.
Vous avez évoqué un autre nom, vous avez parlé de Schmür.
Fmur, le génie des Alpages.
Voilà, Fmur, oui, ça c'est un autre, c'est autre chose.
Qui s'orthographie, il y a combien de R, combien de U?
C'est F apostrophe oui. M-U-2-R.
Voilà. Je n'en rajoutais un de R, et donc ça c'est plus...
C'est de l'humour grinçant, avec à se regarder... de très haut, avoir un regard sur soi qui se moque de soi-même, sur des ambitions et des idéaux un petit peu fleur bleue et écologiste, enfin, retour à la nature, voilà quoi.
Et donc vous côtoyez ces figures dans les années, quoi, disons 80-90, et ça nourrit quelque chose, enfin oui, en termes de posture, disiez-vous, et
ça nourrit, en tout cas j'ai beaucoup observé, j'ai beaucoup analysé.
Écrit, produit, oui, ou pas encore?
Si. Mais c'était des textes poétiques très aphoristiques à l'époque, beaucoup plus que maintenant. Donc mes inspirations, les auteurs phares à l'époque, ça pouvait être de Cioran en passant par Nietzsche jusqu'à René Char. Pour l'écriture aphoristique, hein, voilà. Ça, c'était un petit peu les maîtres. Après, ni j'essayais d'être à la hauteur philosophique de Nietzsche, ni j'essayais d'être à la hauteur du désespoir grinçant de Cioran, ni rien du tout. Par contre, j'avais quand même aussi une expérience qui était dans le milieu poétique de l'époque, il y avait très peu de femmes. Et j'étais bien souvent la plus jeune parmi eux. À l'époque, quand même, ça remonte à 30 ans presque, une dose de au mieux patriarcat, sinon carrément machisme. Et ça, j'essayais quand même d'insuffler ça dans les textes. C'était contrainte et forcée que je devenais féministe, du coup. Oui. Parce que pas vraiment un choix.
Est-ce que les choses ont changé aujourd'hui, mercredi 27 janvier, ouverture du festival de la bande dessinée à Angoulême, avec une sélection.
Le scandale.
Bon, ouais, la polémique a déjà eu lieu, on ne va pas en reparler, mais ça a été intéressant pour.
Et puis il y a les Oscars aux États-Unis aussi.
Oh là, oui, ça c'est une autre affaire. Mais pour avoir écouté d'autres radios, il me semble que c'est sur France Culture que des dessinatrices se sont bien emportées.
Florence Sestac.
Voilà, je crois que notamment. C'est Toufik Hakem,
Florence, ça fait un moment qu'elle est dans le milieu. Hein. Florence, voilà, c'est quelqu'un que j'ai
connu. Puis une Canadienne très talentueuse qui dessine, comment elle s'appelle.
Oui, mais Florence Sestac, elle était mise entre parenthèses. Hein. Voilà.
Et Chantal Montellier, qui est une excellente dessinatrice, a été mise aux oubliettes.
À part Claire Bretéché.
Voilà, c'est ça.
Qui était vraiment sous les spotlights.
Voilà.
Mais toutes les autres, c'était des espèces d'ombres des mecs. Hein,
j'invite les auditeurs à lire le premier tome de l'autobiographie de Chantal Montellier qui raconte toutes ces années de machisme, sa carrière d'excellente dessinatrice envers la fiction politique d'ailleurs et l'anticipation, puisqu'elle est dans sa veine. C'est pour ça qu'elle est très connue, elle est très talentueuse d'ailleurs. Et elle parle de tout ça, c'est très intéressant. On attend le tome 2 avec impatience.
Et donc ça n'est pas terminé, ça continue. Et est-ce que nous écoutons un peu de...
Pour finir avec ce petit portrait, peut-être qu'on pourrait passer une petite surprise. Parce qu'en fait, voilà, l'actrice n'a pas dit que dans une autre vie...
Ouais, d'accord.
Non, on n'en parle pas du tout.
Non, on n'en parle pas du tout.
Je crois qu'il y a de la poésie à mon sens là-dedans.
Hein. Oui, certainement.
Il y a un sens des mots et des noms savants qui sont magnifiques. Le latin, c'est beau.
Ah oui.
On va écouter une petite chanson poétique pour faire un petit clin d'œil à l'autre vie de Béatrice. Il faudra deviner ce que c'était. Ça va être facile.
Oui, mais attends, Gérald, tu lances ça comme ça. Moi, il faut que je me prépare. Il faut que je.
En attendant.
En attendant, qu'est-ce qu'on peut faire?
Moi, je vais dire ce que j'ai sous le nez parce que hier, Béatrice m'a remis un énorme sac rempli de toutes ses publications. D'ailleurs, j'invite aussi auditrices et auditeurs à consulter la Maison des Écrivains sur Internet. On voit la liste de toutes les collaborations artistiques, la bibliographie, les DVD, les interventions, les revues. Il y a beaucoup, beaucoup de... Les anthologies, les traductions. Donc voilà, c'est assez conséquent.
C'est un résumé,
En plus, c'est un résumé. On ne va pas le lire à l'antenne, mais allez-y, on mettra ça sur le blog, comme d'habitude. Voilà. Et donc j'ai eu plein de livres. Alors on pourrait parler de plein de choses. Il y a eu des livres d'artistes, des collaborations artistiques avec André Marzuc, avec Henri Baviera. Donc des livres d'artistes très beaux sur beau papier à tirage limité.
Ouais, je voudrais aussi citer Sylvie de Paris qui a fait un travail magnifique, un travail végétal sur mes textes.
Un certain Gérard Serré,
Yule. Ça, c'est un ami à Nice, Yule. Ah, ben Yule, voilà, quelqu'un qui vit dans les milieux alternatifs. Il fait partie des communautés Longomaï.
D'accord.
Voilà. Donc, communisme libertaire.
La chanson arrive.
Ça n'est pas encore tout à fait prêt. Attends, on va commencer. C'est bien parce que ce que j'ai trouvé, il me semble, ça évoque le Canada. Et donc, ça pourrait être peut-être notre deuxième, partie de portrait de notre invité. Tout n'est pas encore réglé. Tu évoquais donc un sac qui t'a été remis. Je t'en prie, poursuis.
Oui, avec des livres d'artistes que j'ai eu le temps de lire, qui sont de longueurs variées. Et puis aussi une très très belle anthologie, on y viendra après, on va développer la question, la poésie amérindienne, édition Les Cahiers de Lamourier, édition Lamourier, vous avez publié beaucoup de choses différentes, très variées. C'était dans les années 2000, vous avez commencé à une sorte de pré-anthologie de la poésie des Indiens d'Amérique, ou des Native Americans, on va dire.
Native Americans. J'ai donc commencé par celui-là, effectivement, et puis après j'en ai développé un deuxième chez Recours aux Poèmes, une anthologie de 13 femmes sur 3 générations, grand-mère, fille et petite-fille. Et puis ensuite, en Chine, il y a un éditeur qui a pris le risque de faire une grosse anthologie avec 24 auteurs que j'ai présentés. Et là,
qui s'appelle Le Clan du Farceur. Le farceur, j'ai cru comprendre que c'était le coyote, en fait.
Trickster Clan. Alors, Trickster, pour les Indiens, évidemment,
le diable,
on est obligé d'utiliser le mot anglais.
C'est le diable, enfin.
Non, c'est pas...
Le truqueur.
C'est une vision complètement ethnocentriste.
Oui, non, bien sûr.
Il n'y a pas de diable chez les Indiens.
D'accord, mais
le diable, c'est le blanc.
Le malin.
C'est l'homme blanc.
Le malin, alors.
C'est un esprit.
Mauvais, non
enfin, non, c'est comme le yin et le yang, si vous voulez, dans les cultures asiatiques, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du bon, il y a toujours un peu de mal, et qu'à l'intérieur du mal, il y a quand même du bon, et que rien n'est jamais noir, que rien n'est jamais blanc. Et donc le trickster, c'est celui qui le jour peut faire du mal ou du bien, et qui la nuit va défaire le bien ou le mal qu'il a fait. Donc c'est un multiple visage, c'est toutes ces petites facettes, tous ces bouts de mosaïque qu'on porte en soi, qui s'exprime et se manifeste à certains moments, oui, non, voilà. Et c'est l'esprit du vivant, en quelque sorte, tout simplement. En tout cas, c'est comme ça que le vivent les Indiens.
Bon, rendez-vous est pris.
Rencontrer les Indiens nous oblige à changer de catégorie de mental, de pensée,
absolument,
de monde.
Ah
c'est ça qui est intéressant. Ah. Et ça passe à travers la poésie. Ça donne des problèmes de traduction, puisque vous avez traduit.
Et ouais.
Donc dans cette anthologie, 24 Native American Poets de 3 générations. C'est un livre très conséquent de 400 pages. Voilà, c'est la somme qui vient d'être publiée en 2014, édition ASM, qu'on trouve en Chine, qu'on va bientôt trouver en France, j'espère.
J'en ai rapatrié. Donc.
Dans une version franco-anglaise. Et vous aviez aussi publié, puisque vous venez de passer 6 ans à Macao.
Sur 6 ans, mais en tout 3 ans et demi.
Voilà, comme enseignante.
Enseignante de creative writing.
Voilà, écriture donc poétique et créative.
Écriture créative selon le modèle des universités américaines, puisque en Chine, il s'échine et s'acharne à faire tout comme Amérique.
Pour le meilleur et pour le pire. Mais souvent pour le pire. Pas dans ce cas-là.
Dans ce cas-là, c'est plutôt pour le meilleur, parce que évidemment, ça met quand même au contact des étudiants chinois qui ont été formatés pour ne jamais s'exprimer individuellement et ne jamais dire exactement ce qu'ils pensaient, à le faire. Donc bon, on va dire pour eux c'est un progrès. Après on verra ce que ça va devenir, et comme dans toutes les universités de par le monde, on sent bien que ce qu'on appelle les humanités sont en déclin. Ça ne va pas faire exception.
L'humanité en général, on pourrait peut-être même dire.
L'humanité ou les humanités.
En tout cas, ce qu'on appelait les humanités.
Là où j'aurais réagi, c'était quelque chose de tout à fait Michel Léricien, ce qu'on vient d'entendre, Chine, les étudiants chinois,
c'est le dictionnaire Glossolali. Regret du ciel de Calafert.
Dans 2 minutes 25.
Tangage langage de Michel Léris.
Nous reprendrons ce portrait, un portrait donc de Béatrice Machet, avec peut-être on mettra davantage d'histoire et puis davantage de géographie encore sur des lieux. Il faut certainement évoquer des lieux, des années et tout ça.
Oui, parce que c'est une grande voyageuse. Bourlingueuse, on pourrait dire.
On évoquera ça une fois qu'on aura entendu donc un titre mystère. Un titre mystère qui dure donc ces fameuses 2 minutes 25 que j'annonce. Nous écoutons ça. Il est 14h31 à la pendule de Radio Canus. Et c'est très bien, le temps passe, voilà. Nous sommes enfin bonne compagnie, ça va continuer jusqu'à 15h.
Dans les pharmacies. On vend du nougat et du chocolat, des bonbons au citron, des stylos, des poupées gentilles pour les petites filles. Et pour les garçons, des lapins qui sont sauteurs et polissons. On vend de tout, des toutous blancs qui se tiennent debout tout tremblants, des arlequins, des caillqueries et tout un lot de quincailleries. Dans les pharmacies, on entend parfois ces torts secs, garçons, des petits pois. ou un beefsteak, ou des choux farcis, dans les pharmacies. Ces pharmacies-là sont celles du Canada, où l'on prend ses repas, parfois par-ci, par-là. On y vente aussi des pilules, mais sachez que la vente des cachets est un peu cachée. Car ici, ce n'est pas un crime de commander un ice cream où l'on ajoute un peu de soda. Mais les remèdes, on n'en voit pas dans les pharmacies. Dans les pharmacies. J'entre par hasard, et le plus bizarre, je n'en sors qu'après 2h15. Les poches gonflées, de pommes soufflées, de rasoir à main, en dur à l'humain, 2000 produits humains. Un phonographe immense et lourd, y joue des chansons d'amour. Et pour 20 cents, on peut entendre un baryton à voix tendre. Les oiseaux sont couchés dans leur nid, et moi, je suis couché dans mon lit. Il fait froid ce soir, il fait nuit. Alors tendrement je te dis, bonne nuit, Suzy. Bonne nuit, Suzy. Suzy, oui, bien sûr, certainement que oui. Bonne nuit, Suzy, jolie. Bonne nuit. C'est une chanson qui s'appelle Bonne nuit, Suzy. Dans les pharmacies. Dans les pharmacies. Je suis très heureux, tout le monde le sait, car j'y viens joyeux par les Français. Et ce plaisir-là est unique là-bas. Dans les pharmacies. Si, si, si bémol du Canada.
Ah ouais, le coup final, pam pam pam, c'est oui. Très bien. Gérald, pour quelle raison tu nous as fait écouter
c'est
ça
une, c'est une chanson délirante du fou chantant, et puis ça fait allusion à la fois au Canada, à la fois c'est complètement farfelu, et il se trouve que il y a un lien avec Béatrice Machet.
Le Canada, c'est
pas
ça.
Seulement.
Pas seulement, c'est-à-dire que dans mon enfance, donc je vais pas donner des détails, mais j'ai plutôt mené une double vie. Donc la petite fille gentille qui avait des bonnes notes à l'école, et puis la petite fille secrète qui écrivait, dansait, etc. Et donc pour avoir la paix avec mes parents, et ben il y avait une espèce de chantage comme ça. Et donc je ne pouvais avoir de leçons de danse que si j'étais cette petite fille modèle là en apparence. Mmh. Et ça a continué. C'était obligatoirement des études scientifique.
Qui servait déjà.
Sinon,
à
rien.
Voilà.
Tu feras caissière à Monoprix pour te payer tes études. Alors, comme j'aimais la chimie, que j'avais déjà eu un bac à l'époque lycée, c'est-à-dire mathématiques physiques, ben voilà, j'ai passé le concours. À l'époque, c'était un tronc commun médecine, pharmacie et dentaire. Mmh. Et puis, j'ai pris la voie pharmacie parce que c'était pour moi. Beaucoup plus confortable et que je me suis retrouvée avec un doctorat en pharmacie pour monnayer par ailleurs et avoir la paix, complètement
oui,
la paix
surtout avoir la paix
et continuer donc dans cette deuxième vie d'être artiste en quelque sorte voilà.
Et alors quel lien entre
il y a une belle langue
entre avoir la paix et avoir le calumet de la paix.
Ah, et ben voilà.
Ce qui est vraiment très 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 mauvais, mais ça nous permet d'aborder ces Indiens dont vous avez nommé tout à l'heure, ces Native
et
Americans.
Les plantes médicinales, il y a bien un lien dans tout ça.
Et en québécois, c'est les Premières Nations.
Oui.
Comment avez-vous en êtes-vous venu à vous intéresser à ces ethnies, comment nommer à ce monde, cette civilisation?
500 nations, 60 langues, j'ai lu dans l'introduction.
60
Non, 200 plutôt.
Oh, enfin,
je
ne
sais plus,
300,
c'est écrit en introduction.
Enfin, il y a 5 grandes familles, mais à l'intérieur de ces 5 grandes familles, il y a 350 qui restent encore, je crois.
Voilà, 500 nations et 200 langues parlées.
Est-ce qu'il y a un bond depuis ces années 90 qu'on évoquait avec le milieu parisien de science-fiction politique ou dessiné avec les noms dont nous parlions tout à l'heure? Est-ce qu'il y a un bond qui se fait pour atterrir chez ces Indiens d'Amérique ou en fait non, il y a une continuité?
Non, c'est une continuité, et comme je crois l'avoir dit tout à l'heure en introduction, dès l'âge de 9-10 ans, je sentais que ça m'appelait déjà. les westerns me revoltaient. Donc j'ai cherché, je voulais connaître l'histoire, mais pas l'histoire racontée par des blancs,
pas
ce que les journalistes avaient écrit dans le Washington Post de l'époque, etc. Donc, je suis allée vraiment à la rencontre des textes indiens eux-mêmes. Et puis quand j'ai commencé à être donc dans ces réseaux et ces milieux littéraires, et que je pouvais faire confiance à mon anglais, je me suis dit la meilleure chose que je puisse faire pour eux, c'est de faire circuler leurs paroles, donc de les traduire et de les faire publier en France. Voilà, ça s'est passé comme ça, mais c'est en parallèle.
Et il a fallu s'y rendre, donc vous êtes là.
Alors le plus souvent et au début, c'est eux qui faisaient des passages à Paris. Donc j'ai rencontré Norman Scott Mamad, qui est Kiowa. À Paris, j'ai rencontré Linda Hogan à Paris, j'ai rencontré Lance Hansen à Lyon, j'ai rencontré des gens, Maurice Kenny dans le Jura ou en Suisse, enfin, donc selon leur planning et leur voyage en Europe, je m'arrangeais pour être là, donc, et John Trudel, je l'ai rencontré à Marseille, etc. Et puis, bon, évidemment aussi, ensuite, aux États-Unis. Donc là, j'ai rencontré Marianne Broyles. Et puis, il y a aussi beaucoup de travail qui s'est fait simplement par Internet ou par Skype.
Et oui.
Voilà. Donc, ce qui revient au même, c'est toujours...
Vous êtes donc devenue leur traductrice dans leur maison d'édition, enfin, comment dire...
Ouais, je peux dire qu'en France, au départ, il y a eu des initiations, des livres pour expliquer Florence Delay, par exemple, mais de poésie contemporaine, d'auteurs contemporains. À part Manuel Van Tienen qui s'est occupé de Lance Hansen, le poète Cheyenne, dont le nom, voilà, j'ai cité son nom tout à l'heure. À l'heure actuelle, il n'y a que moi, oui, pratiquement. Mmh. Pratiquement, voilà. Et pour la poésie, ça, j'en suis certaine.
Alors, vous avez aussi.
Voilà, donc.
Diane Glancy.
Diane Glancy, qui est Cherokee. aux éditions donc, Wigwam, et puis aux éditions de La Tente. Mm-hmm. J'ai traduit Joseph Bruchac, qui est un Abénaki, voilà. Aux éditions Voix.
Vous traduisez à partir de l'anglais
ou à partir de l'anglais.
Et eux-mêmes ont fait une traduction à partir d'une
alors,
autre langue originale.
Ils ont. Des rudiments de leur langue, où ils la parlent très bien. Quand ils la parlent très bien, il faut savoir que les livres qu'ils vont écrire ne pourront s'adresser au mieux qu'à 5000 personnes,
oui,
à peine.
Leur communauté, enfin, comment dire.
Voilà,
oui.
Hein, donc il vaut mieux qu'ils écrivent en anglais. Et en plus, de toute façon, ils ont l'ambition de dynamiter la langue anglaise,
voilà.
Pour y apporter leur esprit indien. Détourner la langue de l'envahisseur.
C'est la base, ça. La langue de l'ennemi.
Pour la faire
tourner contre elle-même.
Voilà.
Quel écho. J'ai assisté en novembre dernier. Il devrait revenir. Peut-être même sera-t-il dans l'émission. Oui, mesdames et messieurs, auditeurs, auditrices, Robert Lepage, grande figure québécoise qui était présent à Lyon autour du 13 novembre dernier. Il était à Lyon pour la pièce 887. C'est une adresse qu'il avait dans la ville de Québec dans les années 50-60. Eh bien, Robert Lepage, ce spectacle est bâti autour du poème Speak White. De je ne sais plus quelle poétesse québécoise, j'ai mangé son nom, et ce Speak White était un poème mais prodigieux, je le remettrai en lien sur le blog. C'est le poète donc de cette femme, de cette auteure, de cette écrivaine québécoise qui justement retourne la langue des Anglais, ou pas seulement des Anglais, la langue des manipulateurs, elle la retourne justement contre eux. Speak White, c'est le terme qu'employaient les Anglais. Quand il répondait aux Québécois, qu'il leur disait, je sais plus quoi, enfin du moins qui était en train de râler en québécois ou dans leur langue, il leur répondait par les blancs et non pas ne baragouinez pas dans vos idiomes, parce qu'en plus les Québécois étaient peut-être plutôt, je dis québécois, c'était plutôt les Premières Nations qui devaient s'exprimer. Donc il y a une vraie question là-dessus sur le
et un parallèle à mon avis qui n'est pas abusif à faire entre l'appropriation détournée de la langue anglaise par les Native Americans et le mouvement de la négritude. Avec des Aimé Césaire et d'autres poètes francophones qui retournent le français contre lui-même avec le cahier d'un retour au pays natal.
Ou
ça commence avec
matin.
Ça. Ce brûlot à la fois d'amour, de déclaration d'amour à la langue française, mais contre elle-même.
Et alors vous, est-ce que, revenons à vous Béatrice Machet, est-ce que ça nourrit votre écriture, cette volonté chez eux de pulvériser l'anglais? D'ailleurs, vous l'avez dit, vous écrivez en anglais aussi.
J'écris en anglais, oui.
Mais
oui.
Moins peut-être qu'en français?
Depuis moins longtemps.
Oui.
Mais
beaucoup alors. Ouais.
Mais oui, parce que j'écris tous les jours sur un blog. On est une petite association de 11 poètes, des Australiens, des Chinois, un Suédois, un Néerlandais, un Portugais et moi.
Et tous English speaking.
English speaking.
Oui. Oui.
Et donc bilingual. Parce que...
Ah, mais le portugais, je le connais, on le connaît tous, c'est Fernando Pessoa.
Voilà.
Qui, justement, a beaucoup écrit également en anglais, mais Pessoa avec... décédé en 1915, 25, 35...
On n'a pas encore retrouvé toutes les valises, d'ailleurs. Et puis, ouais. il était plusieurs à lui tout seul.
Il était plusieurs à lui tout seul, une bande de jeunes à lui tout seul.
Ouais. Les hétéronymes. Un poète portugais, un poète australien, vous avez dit aussi, non, même plusieurs, des plusieurs, Suédois. Ouais. Suédois.
C'est un peu la magie d'aujourd'hui.
Et donc, on met des textes chaque jour.
D'accord. Chaque jour. Et on pourra consulter.
Ah ben, j'enverrai le lien.
En traduction, enfin vous.
Alors non, je fais les deux versions, mais l'exercice c'est de l'écrire d'abord en anglais. Et de toute façon, c'est ou l'un ou l'autre. Je commence soit en français complètement en français, soit en anglais complètement en anglais, parce que la logique de la langue, l'esprit de la langue est complètement différent. Je peux pas.
Ah bah oui. Oui,
je peux pas faire les mêmes jeux de mots, les mêmes puns.
Donc. Ça repose la question de la traduction, hein. Je vois sur votre page la Maison des Écrivains que vous avez été traduite en russe, en bulgare, en albanais, en chinois, en espagnol et en anglais de nouveau.
Oui, bon, en anglais, bien souvent c'est moi qui me traduis moi-même, mais au départ, dans une anthologie, effectivement, j'avais collaboré avec, ça c'était des activistes alors, des Écossais, hein, qui avaient fait une très très belle anthologie de poésie, ils appelaient ça les Warriors, donc les guerrières, mm-hmm. et les guerriers. Et il m'avait traduit, lui, oui. Donc,
Et le suédois ou le portugais, ils mettent leurs poèmes en suédois ou portugais aussi
Oui.
Ah, il nous faudra le lien de ce blog pour qu'on aille, pour qu'on l'indique sur le blog de Spectaculaire. D'ailleurs, à propos aussi de langue, il faudra qu'on trouve le moyen de faire ça d'ici 15h, Gérald. Une lecture du texte de Goulven pour un compte-rendu sur la pièce Fin de Louis de Joël Pommerat qui est donné au Célestin. Qui est donné un peu par les Célestins, une sorte de partenariat entre Célestin et TNP. Il y a encore une représentation
ce soir. Une pièce paraît-il géniale, et puis sinon demain, on en croit Goulven.
Et il y a aussi Romeo Castellucci, la Orestea Commedia Organica. Je ne sais jamais comment accentuer l'italien. C'est encore donné ce soir seulement. C'est une dernière. Il y a beaucoup de choses, hein. Il y a une fin de janvier. C'est l'article qui se trouve sur le blog. Je l'ai qualifié de fastueuse, cette fin janvier. Il y a l'opéra Lady Macbeth de Mzinsk qui est donné actuellement à l'Opéra de Lyon. Il y a Katia Guerreiro qui viendra chanter du portugais ce samedi. Il y a aussi à l'auditorium le château de Barbe Bleue demain, du hongrois. Le hongrois est quand même vraiment difficile à entendre. Le nom hongrois de cet opéra, c'est un truc pas possible. Akezakskalu Aragvara, je crois que c'est comme ça.
Bravo.
Il y a également la semaine prochaine Also sprach Zarathustra de Richard Strauss tiré de Friedrich Nietzsche.
Mm-hmm. Détourné.
Détourné. Ça se prononce d'ailleurs comme ça s'éternue, je crois.
Et on vous passe les expositions d'art, puisque c'est le dernier jour de Renaissance à Lyon, aux Beaux-Arts.
Il y a encore beaucoup de choses. Mais bon, nous parlons
de lyonnaise,
nous parlons de galerie. Langue. Nous parlons de langue. Je n'ai pas encore retrouvé votre rendez-vous du 14 février, mais on va trouver ça à Béatrice. Est-ce que vous pouvez encore, je ne sais pas, évoquer deux, trois choses? Ou alors, est-ce qu'on écoute?
On va bientôt écouter, pendant que tu cales, un magnifique morceau de John Trudell.
Ah oui, ce John Trudell, décédé il y a...
Il faudrait rendre hommage, ouais, et puis peut-être que Béatrice va nous en dresser un petit portrait.
Je peux vous en dire deux mots, ou même vous lire un des textes que j'ai traduit de lui. Alors John Trudell, c'est donc quelqu'un né en 1948, Sioux, qui s'engage dans les Marines et va faire la guerre au Vietnam. On revient, s'engage ensuite directement dans l'activisme américain au moment où les événements d'Alcatraz débutent. Alcatraz, une île que les Américains avaient achetée pour $1 aux Indiens de l'époque. Les Indiens sont délogés, l'île d'Alcatraz est occupée, on y construit un pénitencier, le pénitencier déménage, et donc les Indiens disent, eh ben on vous rachète pour $1, cette île, puisque vous n'en faites plus rien. Rendez Luna. Alors voilà, on la rend. Donc c'est une occupation très symbolique qui dure presque 2 ans. Et là, donc, John Trullell devient le porte-parole de l'AIM, American Indian
Movement.
C'est
en 62.
Et puis de 62 jusqu'à 76, il va militer.
Dans le cadre de l'AIM, c'est ça?
Ouais.
Donc l'AIM, c'est...
American Indian Movement. Le mouvement des Indiens d'Amérique. Mm-hmm. Hein, et qui va vraiment construire sur les réserves des écoles de survie, réinvestir les langages, réinvestir la culture, redonner confiance et redonner une fierté d'être indien, essayer de combattre l'alcoolisme, l'abus de drogue, toutes ces choses qui sont terribles sur les réserves ou le taux de chômage est le plus haut États-Unis.
L'ethnocide succède au génocide. C'est ce que dit Joseph Bruchac dans l'anthologie des cahiers. Ouais, ouais. Il a dit que, bon, ils ont signé le traité de paix, c'est maintenant que le génocide va commencer.
Ouais, ouais.
Enfin, sous la forme d'un ethnocide, tout
c'est
simplement.
Ça, c'est ça. Ouais, ouais. Donc, bon, c'est une situation vraiment catastrophique, mais en même temps, il y a une force de survie, il y a une force de résistance, et il y a une culture tellement forte que ça, jamais, ils n'arriveront à le tuer. Et, plus fort encore, quand on se promène aux États-Unis, on ne peut pas ne pas sentir la présence indienne. Mmh. Que ce soit dans les paysages, que ce soit dans les noms...
Des villes.
Des villes. Mmh. Chattanooga, les noms
Toute Tennessee. Au Canada aussi, au Canada, la province Saskatchewan.
Voilà. Donc, de toute façon, le sol est
Winnipeg.
Indien.
Winnipeg.
Voilà.
Oui, ça, on n'arrivera jamais à le gommer.
Et ça, ça sera pour toujours. C'est incrusté et c'est la réelle identité de ce continent. Donc, tant que les Blancs n'arriveront pas à l'admettre, eh ben, on ira de catastrophe en catastrophe, écologique et culturelle. Quand enfin l'Amérique reconnaîtra ce qu'elle doit aux Indiens et que de toute façon l'identité de ce continent est indien, alors les choses vont pouvoir évoluer. Et, enfin, ça, c'est vraiment ce que je pense. Et donc, inévitablement, ça passe par faire connaître ces gens, faire connaître ces cultures qui ont des solutions pour nous.
Oui, en plus.
Et qui nous...
L'avenir.
Voilà.
Il y a un autre rapport à la nature,
et voilà.
C'est sûr.
Et là, vraiment, oui. Ils ont d'ailleurs réussi hein, autour du lac Saint-Jean au Canada, et dans le Maine, ils ont récupéré des terres et ils les autogèrent, etc. etc. Donc les expériences indiennes par les Indiens montrent que c'est possible... au XXIe siècle, de vivre dans un espèce de confort moderne, tout en respectant. Voilà, donc... laissez-les faire, comme ils savent le faire.
Qu'est-ce que nous écoutons alors? The Cleansing, c'est ce que tu me recommandais.
Ou alors Cry of Tears.
Ou alors il y avait un autre.
Peu importe.
Cleansing
me semble prêt. Nous l'écoutons, et puis ensuite, il nous restera quelques minutes pour ce compte-rendu de Goulven, et puis pour évoquer cette date du 14 février, et puis peut-être deux, trois choses. Je vois que le Blues des Canuts aura bien lieu, puisque Pascal est entré dans les locaux de Radio Canut. Voilà, il nous reste encore 10 minutes à passer ensemble, ça va être génial, notamment avec John Trudell sur cet extrait de l'album, je crois, Tribal Voice, Original Release, 1983. Tribal, je prononce très très mal. On demandera à Béatrice Maché ensuite de refaire les prononciations. Nous écoutons cela.
Little daughter, you are so small for a big woman, so soft for someone who must be so strong. Little daughter, I hold you in my arms, I laugh and am happy at your baby girl's smile. To say I feel good is not enough. Little daughter, I walk with you through the dimension called time. For what are minutes, days, or years compared to father-daughter places in eternity? Little daughter, you, the delicate infant child, carry the innocent reality. I pray for your protection, prayers to help you through this life experience.
Cooptation.
Little daughter,
Crazy
the times
horse.
I hold you next to me, I am...
Les oreilles indiennes, précisément les entendent encourager la révolution en Amérique centrale et partout ailleurs dans le tiers-monde. Par contre, ils nous racontent que notre situation est différente. Nous devons être patients. Leur système de loi sauve la face de la liberté. Ils le croient. Mais les oreilles indiennes pensent différemment. Ces yeux indiens, les voix luttées contre les désobéissances civiles et les règles de coopération. Violence, non-violence, livrant les identités humaines aux brigades de la sécurité nationale des faiseurs de guerre. Comme si un faiseur de guerre croyait en la même démocratie qu'ils mettent en œuvre. Par la coopération prétendument affirmée comme désobéissance civile. Cette attitude encourage et se fait complice de l'esclavagisme. Dans ses yeux se reflète une énorme surprise. Ce cœur indien bat. Il disait comprendre ce qui se passait. En même temps, ils essayaient d'imposer les théories missionnaires de leur amour-haine romantique à nous, les Indiens. Leur cœur battant dans une ruade, nous leur échappons tout juste. Ce qu'ils disaient, ils le comprenaient. Ces rêves indiens enveloppent les mots caressés quand ils parlent de vérité et de justice. Leurs illusions s'enflent comme des larmes sur ces rêves, comme si les rêves étaient des flammes qu'ils veulent éteindre. Ce sang indien coule, pareil à une déclaration de liberté selon leur point de vue. Le sang indien coule au travers des barreaux des prisons, au travers des rues des quartiers d'affaires, au travers de l'histoire révisionniste, au travers de la déchirure dans l'aura dorée de Dieu. Le sang s'écoule et retourne au territoire volé. Cette voix indienne porte des pensées qu'ils n'ont pas le temps d'entendre. Les bruits de leur pouvoir industriel parlent des langues plus familières à leur état d'esprit. Protéger l'environnement, mais surtout les biens matériels. Cette voix indienne parle de notre mère et elle écoute. Cette âme indienne vit à et hors de leur portée, dans le vent, l'air, l'eau, le sol, le ciel, le soleil, la lune, les étoiles, les végétaux, les animaux, les oiseaux, les souvenirs, les rires, les larmes. Ce passé indien, cet avenir indien. Attendent.
Bon, ben...
Voilà, ça c'est John
Ils
Trudel.
Attendent.
Paix à son âme.
Paix à son âme et
de
hommage
militant.
À lui. Voilà,
très
oui,
beau.
Militant et
très fort.
Grand poète aussi.
Et très bon chanteur avec une belle voix.
Ah ouais,
aussi.
Oui, il a une voix... Ouais.
Ouais, il aurait pu...
Mais tous les Indiens, enfin, pour ce que j'ai pu constater, les hommes indiens ont une espèce de coffre et de... possibilité de grave et ça
tellurique.
Va avec leur
la
langue
de chanter, voilà. Qu'on en connaît
oui non mais même les langues pour ce que j'en connais hein, parce que je les connais pas toutes mais il y a des langues gutturales comme le navajo ou l'apache mais ça fait rien ils ont un coffre et des graves et dans la langue Lakota donc la langue des Sioux encore plus je crois oui.
La traduction quand même réussissait je trouve à créer quelque chose après qu'est-ce que c'était en langue originale en anglais j'ai retrouvé le speak white c'était donc une expression je lis sur une page Wikipédia est une injure proférée aux Canadiens français par les Canadiens anglais lorsqu'ils parlaient français en public c'est le poème ensuite qu'on a été tiré est un poème de Michel Lalonde en 1968 c'est intéressant une année qui mondialement fut assez riche quelques minutes encore
bah, le temps passe trop vite
le temps passe
donc
trop vite.
Tu as une mini lecture
oui,
à faire peut-être pas en totalité, mais moi je propose que Béatrice Maché revienne pour une spéciale lecture sonore,
ah ouais,
musicalisée,
ça
pendant une spéciale spectaculaire.
Oui, mais il faut qu'elle reparte dans le Var, j'ai cru comprendre.
Pas tout de suite.
Mais non mais, je m'installe
donc,
à Lyon
formidable.
Je vais être lyonnaise
C'est une excellente chose.
Voilà, donc c'est une très bonne nouvelle.
Rendez-vous est pris, nous reviendrons de toute façon. Allez,
pour fêter l'été, le printemps, je ne sais quoi. Et en plus, juste avant le blues des Canuts, comme ça on passera des Indiens d'Amérique aux Afro-Américains.
On pourrait faire un printemps des poètes, mais décalé.
Ben d'accord.
Alors, à côté de l'officiel.
Et on alterne blues
fait,
et.
On fait de l'off, nous.
Okay.
Et musique native américaine et poésie.
Un spectacle à en perdre la tête ou la révolution française en immersion. Ça ira. Fin de Louis de Joël Pommerat. Compte rendu de Goulven. Je vais lire effectivement le début, l'introduction. Et puis quelques étudiants ont pris la parole sur ce compte rendu qui se trouve également sur le blog. Tu le rappelais, Gérald. Voici les premiers mots qu'écrit Goulven pour ce compte rendu. Lorsque je ne rédige pas des comptes rendus de spectacles pour Radio Canu, j'enseigne la littérature. Et à ce titre, mercredi 13 janvier, j'ai emmené une classe au TNP pour assister à Ça ira 1, fin de Louis, la dernière création de Joël Pommerat et de sa compagnie Louis Brouillard. La compagnie est bien connue des spectateurs du TNP puisque depuis 2009, elle y a proposé avec un succès renouvelé Les Marchands, Je tremble 1 et 2, puis Ma chambre froide et voilà. Ça ira 1 repose sur les mêmes procédés que ses précédents spectacles. J'indique quels sont ses procédés. Je lis ce qu'en disent Laura, je crois, et Florian. Et puis nous en restons là.
Lâchons l'antenne.
Oui. L'écriture, d'abord, est le fruit d'une élaboration collective dans laquelle la scène précède le texte. La pièce s'élabore au fil du travail de plateau, de concert avec les comédiens. L'heure de la publication sonnera une fois que les représentations auront eu lieu. La mise en scène, ensuite, se joue à la frontière entre le théâtre proprement dit et le cinéma. Tous les acteurs parlent à travers des micros disposés à même le plateau, mais aussi cachés dans leurs costumes. Les voix ainsi captées et les séquences musicales nous sont renvoyées dans des haut-parleurs disséminés un peu partout dans la salle. À ce travail extrêmement poussé sur le son vient s'ajouter un travail singulier sur le rythme. Comme nombre de ses contemporains, Pommerat renonce à la subdivision de la pièce en actes et en scènes. L'avancée de l'histoire repose sur l'enchaînement de séquences. Deux séquences sont séparées par un fondu au noir. La salle est plongée dans la pénombre pendant que les acteurs et les techniciens font évoluer le décor. Les lumières se rallument sur un paysage scénique neuf. L'association des deux techniques, des micros et des fondus au noir, produit des effets prodigieux. Le spectateur a l'impression d'être au cinéma, mais dans un film en trois dimensions, dont les acteurs seraient vivants. Depuis l'Antiquité jusqu'à la fin du XXe siècle, le théâtre a joué ou bien de l'identification ou bien de la distanciation du public. Le génie de Pommerat, c'est d'inventer dans le sillage d'Ariane Mnouchkine un dispositif d'immersion. Nous sommes spectateurs véritablement plongés dans le monde de la fiction. Et cela continue, la belle prose de Goulven que vous pourrez retrouver sur le site. Je lis ce que Margot, qui est une de ses étudiantes, a indiqué de ce spectacle. Entre Révolution française et époque contemporaine, il n'y a qu'un pas, et ce pas dure 4h30. 4h30 qui peuvent paraître effrayantes, plongées dans une reconstitution actuelle de 1789, c'est un angle inhabituel. Notre point de vue est celui de l'Assemblée nationale ou du roi. Débat, accord, mécontentement, à travers des petits dialogues et à l'aide d'acteurs exceptionnels qui jouent plusieurs rôles à la fois, Joël Pommerat arrive à nous faire passer par tous les états émotionnels. La pièce est très vivante, tout est mis en scène pour que figurants, acteurs et spectateurs se confondent. La salle tout entière devient la scène. Depuis le commencement des états généraux en mai 1789 jusqu'en octobre de la même année, tout le monde devient député. Aucune morale, mais la confrontation des idées dans un parallèle entre cette époque et la nôtre. Une seule question vous taraude en sortant de la salle. Quel camp auriez-vous choisi? Je ne fais honneur qu'à Margot. Tant pis pour Nicolas, pour Laura et pour Florian. Vous retrouverez ce qu'ils ont pu écrire sur le blog. Je vois qu'il ne nous reste qu'une minute. Béatrice, un mot de la fin, il faudrait.
Alors, mot de la fin. Pour ceux qui auraient envie de continuer de savoir comment et ce que j'écris, je suis programmée au Périscope. Donc, c'est le cabaret poétique qu'anime Frédéric Oudard.
Dans le 7e, vers la gare Perrache, voilà. Un lieu très dynamique dont on ne parle pas assez souvent.
Voilà, donc le Périscope, donc, le 14 février, j'aurai un quart d'heure, 20 minutes, je ne sais pas exactement, mais enfin.
Pour une lecture poétique.
Pour une lecture poétique avec une bande-son et peut-être des vidéos. Parce que je fais quand même dans la poésie performative et je collabore avec beaucoup
de monde.
De monde, on n'en a pas encore assez parlé. Et des disciplines artistiques.
Voilà. On insistera là-dessus la prochaine
fois.
Ouais. J'allais dire la semaine prochaine.
Donc,
mais non.
À bientôt.
À plus tard.
Un dimanche, le 14 février, ce sera une très bonne chose. On écoute un peu de poésie, puis après, on emmène son compagnon ou sa compagne dans sa compagne à la campagne. Voilà, ça peut être très bien. C'était pas du tout poétique. Arnaud Meunier, normalement, la semaine prochaine pour Le Retour au désert, une pièce de Bernard Marie Coltès qui est absolument stupéfiante. Non, c'est pas la semaine prochaine, ce sera le 10 février. Non, entre temps, le 3 février, ce sera autre chose. Ou alors je me trompe.
Non, ce sera le 3, il me semble.
C'est bien Arnaud Meunier, tu as raison.
Directeur de la Comédie de Saint-Etienne.
Exactement, je me trompe. Et c'est Caroline Guiella Nguyen qui sera présente le 10 février
pour le spectacle Chagrin au théâtre de la Croix-Rousse.
Au théâtre de la Croix-Rousse. Vous retrouvez tout cela, ainsi que l'indication que vient de donner Béatrice Machet sur le Périscope. Vous retrouvez tout cela sur le blog, comme tous les mercredis. Et puis voilà, nous laissons la place à Pascal pour le Blues et Canu. Il y a ensuite La Lumière dans le Frigo. Non, c'est autre chose, l'émission à 17h. On n'arrête pas le prog sur du rock progressif. Il y a Son Bâtard à 16h. Et puis il y a également le Méga Combi à 18h et Canu Info à 19h. Voilà, vous êtes au courant de tout. Eh bien, passez
merci,
bon après-midi, bonne semaine. Merci encore.
Je vous en prie, merci à vous.
Au revoir.
À la semaine prochaine.
J'ai rien à chanter, pas d'enfance martyre, personne m'a aidé. J'ai jamais été battu, ni fouetté, ni giflé. Mais pourquoi? Pourquoi moi? J'ai beau chercher partout, ressasser sans arrêt mon passé, revoir toute mon enfance, mais j'ai jamais souffert. Les vacances à la mer, les cadeaux à Noël, les habits à la mode, les petits coups de latin. Ah, y en a qui ont du bol, qui ont de longues maladies, des parents alcooliques, une lourde hérédité, eux ils en ont à dire. Moi j'ai rien à chanter, je verrai toutes mes cuties, sauf une fois, à cause du timbre qui s'était décollé dans mon bain. J'ai le bleu de Neuilly, Neuilly bleu. J'ai le blues de Neuilly, Neuilly blues. Mais qu'est-ce que je pourrais dire? J'ai rien à chanter, j'ai pas pu choisir. C'est lourd, le passé. J'ai jamais été soudeur, ni mineur, ni tôlard, le destin. Tu peux pas lutter contre. J'ai beau chercher partout, fouiller dans les archives de famille jusqu'au cousin germain, pas trace de métallo. Ingénieur, professeur, avocat, chirurgien, musicien, journaliste, critique d'art, PDG. Ah, y en a